Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Grâce à Mzati Masanzi pour le journal.
La forêt équatoriale couvre plus de la moitié de la République démocratique du Congo et présente un écosystème très riche, mais le pays solution n'a pas encore gagné des dividendes liés à cette solution planétaire. Ainsi, le président de la République, Félix Tshisekedi, s'exprime à ce sujet ce mercredi au sommet sur l'Amazonie au Brésil, affirme sa porte-parole. Les peuples autochtones sont les héritiers d'une grande diversité linguistique et culturelle, mais ils constituent aujourd'hui 15% des individus les plus marginalisés de la planète. Affirmation de l'Organisation des Nations Unies à l'occasion justement de la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones ce mercredi. L'invité du journal est le chef des programmes à la Fondation Konrad Adenauer. Le professeur Félicien Kabamba nous parle du séminaire organisé à Kindu en faveur des représentants des différents partis politiques du Maniema sur le processus électoral en cours en RDC. Mesdames et messieurs, bonjour. Commençons ce journal par ce sommet sur le bassin de l'Amazonie au Brésil. Invité par son homologue du Brésil, Lula da Silva, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'exprime ce mercredi sur l'énorme potentiel du bassin du Congo dont les deux tiers se trouvent en République démocratique du Congo. La porte-parole du chef de l'État congolais affirme qu'avec ses 1,5 million hectares, la forêt équatoriale couvre plus de la moitié du territoire national et présente un écosystème très riche, mais le pays solution n'a pas encore gagné des dividendes liés à cette solution planétaire. Tina Salama estime qu'en approchant ses pairs de l'Amazonie, le président Félix Tshisekedi entend aussi se conformer aux procédures du marché carbone. On écoute Tina Salama, jointe par Alain Rung.
C'est une opportunité pour notre président et bien évidemment les autres chefs d'État de ce qu'on appelle les trois bassins forestiers tropicaux. Vous savez, là on parle de la RDC bien évidemment, on parle également du Brésil avec l'Amazonie et de l'Indonésie avec le Bornéo-Mekong qui ont ces bassins tropicaux pour le développement, on va dire, pour créer une sorte de front commun pour la préservation de ces ressources. Donc depuis un moment, nous sommes dans une sorte de synergie ou de dynamique de ces trois bassins pour bien évidemment trouver des solutions au réchauffement climatique et créer l'énergie propre. Donc nous sommes venus ici parce que nous avons une sorte de similarité avec le Brésil et parce que nous avons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes solutions également. Alors on ne peut pas y aller en ordre dispersé, on ne peut pas y aller de manière isolée. L'Indonésie, le Brésil ont déjà quand même pu avoir un modèle ou un plan d'action qui fait à ce qu'ils aient pu obtenir une compensation financière. Donc nous sommes là également pour peut-être pas copier leur modèle, mais voir comment est-ce qu'ils avancent sur ces questions-là, mais également pour des questions de solidarité. Alors notre objectif tout simplement, c'est de réduire la pauvreté, accroître les conditions d'une croissance économique qui soit inclusive.
Tina Salama, porte-parole du président de la République, Félix Tshisekedi. Pendant ce temps, au Nord Kivu, la desserte en eau potable dans plusieurs quartiers de Goma pose des sérieux problèmes et suscite un malentendu entre la population et les responsables de la régie des eaux, société publique de distribution d'eau potable. Plusieurs jeunes leaders des structures et mouvements citoyens, des cadres de base et le responsable de la régie des eaux étaient hier autour d'une table devant le maire de Goma pour échanger sur cette question. Occasion pour la régie des eaux d'appeler toute la population à l'apaisement et la rassurer qu'une solution sera trouvée incessamment. À Goma, Sifa Maguro.
Au cours d'un échange houleux, le directeur provincial de la régie des eaux a reconnu et présenté ses excuses à la population pour les désagréments observés dans la desserte en eau dans la ville. David Ongoyo a également expliqué les efforts menés par son institution pour répondre aux besoins de la population, mais aussi les défis auxquels il fait face.
Nous sommes au niveau de la station principale qu'on appelle station La Kivu. Nous sommes en train d'installer un nouveau groupe motopompe. Trois groupes motopompes à la ville de Goma. Il y a deux qui est consacré à renforcer l'approvisionnement en eau ou les pompages d'eau vers les quartiers de la commune de Karisimbi où effectivement les problèmes des manques d'eau semblent être réels. Je cite les quartiers Virunga, Murara, Mabanga Nord, Mabanga Sud, partie de Birere et Kaembe. Ces travaux sont en cours. On a déjà construit les massifs. Temps d'attendre que ces bétons puissent se consolider.
Rappelons que ces regroupements de jeunes manifestent régulièrement pour réclamer un bon accès à l'eau potable pour la population des Goma. Cette difficulté en desserte provoque des conséquences néfastes, surtout pendant cette période sèche. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Et puis, 5 morts, 7 blessés et de nombreux dégâts matériels importants enregistrés. C'est le premier bilan de l'incendie d'un camion-citerne hier matin ici à Kinshasa. Bilan dressé par le bourgmestre de la commune de Lemba et confirmé par le vice-gouverneur Jekoko Mulumba ainsi que le vice-premier ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Parmi d'autres conséquences, plusieurs quartiers de la commune de Ngaba seront privés d'électricité pendant un temps non précisé, indique un haut responsable de la SNEL. En effet, ces camions en provenance du Congo central sur l'avenue Bypass a percuté un poteau de câbles électriques qui a causé cet incendie qui s'est propagé sur des maisons commerciales et certaines habitations environnantes. Par ailleurs, au Congo central, le bac moteur de Luozi, en arrêt depuis le 23 juillet, sera fonctionnel dans quelques jours. L'office des routes qui gère cet engin flottant a acquis des fonds pour l'achat de 2 moteurs neufs pour le réparer. C'est ce qu'affirme le gouverneur du Congo central à l'issue d'un entretien qu'il a eu avec le directeur général de l'office des routes, Janon Kikanga Langoi Gibandu Ndungidi, qui dit suivre de près cette situation depuis le début, appelle les habitants du territoire de Luozi à prendre leur mal en patience, car ces 2 moteurs neufs vont résoudre le problème des pannes récurrentes de ces bacs. Le point avec Nana Plurich Mambou.
Ayant toujours été révisé depuis sa mise en service aux années 1997, les 2 moteurs du bac de Luozi qui fumaient à maintes reprises, même pendant la traversée, seront remplacés sous peu par d'autres moteurs achetés par le gouvernement central via l'Office des routes. Le gouverneur de la province du Congo central, qui a saisi officiellement les autorités de l'Office des routes sur la question de ces bacs, s'est réjoui du dénuement erré de ces démarches. Pour Guy Bandundungidi, la remise en activité de cet engin flottant n'est qu'une question des jours.
L'Office des routes vient d'annoncer qu'elle a reçu l'autorisation du ministère de tutelle afin d'acquérir les 2 moteurs pour pouvoir réparer le bac qui est en panne. Donc c'est l'occasion de pouvoir rassurer la communauté que le bac va être de nouveau fonctionnel assez vite et ce n'est qu'une question de jours.
Comme solution susceptible de désenclaver les territoires de Luozi, ces derniers préconisent l'achat d'un nouveau bac d'une grande capacité et l'érection d'un pont entre les 2 rives du fleuve Congo. Signalons que depuis l'arrêt de la traversée du bac, plusieurs gros véhicules transportant des marchandises sont bloqués sur les 2 rives, car le petit bateau qui fait le trafic ne peut le transporter à cause de son faible tonnage. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Sud Kivu, la société civile de Calais intensifie son plaidoyer pour la réhabilitation de la route nationale numéro 2 Bukavu-Goma. C'est là dans son tronçon compris entre Nyamukubi et Minova. Une situation qui accentue la précarité dans laquelle vit déjà la population après les inondations meurtrières de mai dernier à Calais. Par ailleurs, les acteurs de la société civile plaident ainsi auprès des autorités compétentes pour une accélération du processus de passation des marchés pour permettre les débuts des travaux d'asphaltage de la route nationale numéro 2 et la route nationale numéro 3 Bukavu-Kisangani. Delphin Birimbi, président de la société civile cadre des concertations territoriales de Calais, explique au micro de Cynthia Bachizi Nabizana.
Considérant nos multiples actions de plaidoyer menées auprès des décideurs congolais à ce qui concerne les projets d'asphaltage de ces 2 routes, nous constatons que les procédures prennent plus de retard dans la matérialisation du dit projet selon les différentes promesses. Vu les catastrophes naturelles du 4 mai 2023 sur l'axe Bouchouchou, Nyamukubi et ailleurs dans le territoire de Calais. En attendant le début des travaux d'asphaltage, nous demandons l'ouverture rapide par l'Office des routes du tronçon routier Nyamukubi-Nyabibu jusqu'à Tchungiri-Minova, à limite avec la province voisine du Nord Kivu, à travers les machines déjà disponibles sur l'axe Bouchouchou-Nyamukubi. Au gouvernement central, via la cellule infrastructure du gouvernement congolais, d'accélérer le processus de sélection de l'entreprise qui sera chargée d'asphalter la RN2 et la RN3.
Je l'ai dit au sommaire, célébration ce 9 août de la Journée internationale des peuples autochtones. La jeunesse autochtone en tant qu'agent de changement pour l'autodétermination, tel est le thème de cette année. Les peuples autochtones représentent 476 millions de personnes réparties dans 90 pays. Bien qu'ils ne représentent que 5% de la population mondiale, ils constituent aujourd'hui 15% des individus les plus marginalisés de la planète, affirme l'ONU. Les peuples autochtones sont les héritiers d'une grande diversité linguistique et culturelle, ainsi que des coutumes et des traditions ancestrales. Il ne compte pas moins de 5000 cultures différentes et parle la vaste majorité des quelques 7000 langues de la planète. D'autres détails avec vous, Alain Rung.
Selon l'ONU, malgré leur diversité, la plupart des peuples autochtones partagent d'importants points communs, notamment les liens qu'ils entretiennent avec leurs terres ancestrales et leur environnement, de même que la volonté de préserver leur mode d'organisation, leurs valeurs culturelles, sociales et économiques qui varient souvent des normes dominantes dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Bien que pluriels, les peuples autochtones partagent donc des défis similaires liés à la reconnaissance et à la protection de leurs droits les plus fondamentaux. Depuis des décennies, les peuples autochtones demandent la reconnaissance de leur identité, de leur mode de vie, de leurs terres, territoires et ressources naturelles, mais malgré leurs efforts, ils continuent d'être victimes de discrimination et d'injustice. Afin de sensibiliser le public aux besoins de cette partie de la population, nous célébrons, affirme l'ONU, le 9 août de chaque année, la Journée internationale des peuples autochtones. La date a été choisie pour rappeler la première réunion du groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones tenue à Genève en 1982.